Chapitre 4. Curiosité de la chose. Toute morale est niée par un tel serment, toute honte bue, toute pudeur affrontée. Aucune raison pour qu'on ne voie pas des choses inouïes. On les voit. Dans telle ville, à Évreux, note, le président du tribunal de commerce à Évreux refuse le serment. Laissons parler le moniteur, M. Vernet, ancien président du tribunal de commerce d'Évreux, était cité à comparaître jeudi dernier devant messieurs les juges correctionnels d'Évreux, en raison des faits qui ont dû se passer le 29 avril dernier dans l'enceinte de l'audience consulaire. M. Vernet est prévenu du délit d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement. Les juges de première instance renvoient M. Vernet et le blâment par jugement. Appel à minima du procureur de la République. Arrêt de la cour d'appel de Rouen. La cour, attendu que les poursuites ont pour unique objet la répression du délit d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement. Attendu que ce délit résulterait d'après la prévention du dernier paragraphe de la lettre écrite par Vernet au procureur de la République à Évreux, le 26 avril dernier, et qui est ainsi conçu. Mais il serait trop grave de revendiquer plus longtemps ce que nous croyons être le droit. La magistrature elle-même nous saura gré de ne pas exposer la robe du juge à succomber sous la force que nous annonce votre dépêche. Attendu que, quelque blâmable qu'ait été la conduite de Vernet dans cette affaire, la cour ne peut voir dans les termes de cette partie de sa lettre le délit d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement, puisque l'ordre en vertu duquel la force devait être employée pour empêcher de siéger les juges, qui avaient refusé de prêter serment, n'émanait pas du gouvernement. Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de lui faire l'application de la loi pénale. Par ces motifs, confirme le jugement dont est appel sans dépens. La cour d'appel de Rouen a pour premier président M. Franck Carré, ancien procureur général près la cour des pairs dans le procès de Boulogne, le même qui adressait à M. Louis Bonaparte ces paroles. « Vous avez fait pratiquer l'embauchage et distribuer l'argent pour acheter la trahison. » Fin de note. Reprise. Dans telle ville, à Évreux, par exemple, les juges qui ont prêté le serment jugent les juges qui l'ont refusé. L'ignominie assise sur le tribunal fait asseoir l'honneur sur la sellette. La conscience vendue blâme la conscience honnête. La fille publique fouette la vierge. Avec ce serment-là, on marche de surprise en surprise. Nicolet n'est qu'un maroufle près de M. Bonaparte. Quand M. Bonaparte a eu fait le tour de ses valets, de ses complices et de ses victimes, et empoché le serment de chacun, il s'est tourné avec bonhomie vers les vaillants chefs de l'armée d'Afrique et leur a tenu à peu près ce langage. À propos, vous savez, je vous ai fait arrêter la nuit dans vos lits par mes gens. Mes mouchards sont entrés chez vous, l'épée haute. Je les ai même décorés depuis pour ce fait d'armes. Je vous ai fait menacer du bâillon si vous jetiez un cri. Je vous ai fait prendre au collet par mes argousins. Je vous ai fait mettre à Mazas dans la cellule des voleurs et à Ham dans ma cellule, à moi. Vous avez encore au poignet les marques de la corde dont je vous ai lié. Bonjour, messieurs, Dieu vous ait en sa sainte garde. Jurez-moi fidélité. » Changarnier l'a regardé fixement et lui a répondu « Non, traître !» Bedeau lui a répondu « Non, faussaire !» La Mauricière lui a répondu « Non, parjure !» Le Flot lui a répondu « Non, bandit !» Charras lui a donné un soufflet. À l'heure qu'il est, la face de M. Bonaparte est rouge, non de la honte, mais du soufflet. Autre variété du serment, dans les casemates, dans les bastilles, dans les pontons, dans les présides d'Afrique, il y a des prisonniers par milliers. Qui sont ces prisonniers? Nous l'avons dit, des républicains, des patriotes, des soldats de la loi, des innocents, des martyrs, ce qu'il souffre, des voix généreuses l'ont déjà dénoncé, on l'entrevoit. Nous-mêmes, dans le livre spécial sur le 2 décembre, nous achèverons de déchirer ce voile. Eh bien, veut-on savoir ce qui arrive ? Quelquefois, à bout de souffrance, épuisé de force, ployant sous tant de misère, sans chaussures, sans pain, sans vêtements, sans chemise, brûlés de fièvre, rongés de vermine, pauvres ouvriers arrachés à leurs ateliers, pauvres paysans arrachés à leurs charrues, pleurant une femme, une mère, des enfants, une famille veuve ou orpheline sans pain de son côté et peut-être sans asile, accablés, malades, mourants, désespérés. Quelques-uns de ces malheureux faiblissent et consentent à demander grâce. Alors on leur apporte à signer une lettre toute faite et adressée à Monseigneur le Prince Président. Cette lettre, nous la publions telle que le sieur Quentin Bochard l'avoue. Guillemets. Je, sous-signé, déclare sur l'honneur accepter avec reconnaissance la grâce qui m'est faite par le prince Louis-Napoléon et m'engage à ne plus faire partie des sociétés secrètes, à respecter les lois et à être fidèle au gouvernement que le pays s'est donné par le vote des 20 et 21 décembre 1851. Fin des guillemets. Qu'on ne se méprenne pas sur le sens de ce fait grave. Ceci n'est pas de la clémence octroyée, c'est de la clémence implorée. Cette formule « Demandez-nous votre grâce » signifie « Accordez-nous notre grâce ». L'assassin, penché sur l'assassiné et le couteau levé, lui crie « Je t'ai arrêté, saisi, terrassé, dépouillé, volé, percé de coups, te voilà sous mes pieds. Ton sang coule par 20 plaies. Dis-moi que tu te repens !» Lettre majuscule. « Et je n'achèverai pas de te tuer. » Se repentir des innocents, exigé par le criminel, n'est autre chose que la forme que prend au dehors son remords intérieur. Il s'imagine être de cette façon rassuré contre son propre crime. À quelques expédients qu'il ait recours pour s'étourdir, quoi qu'il fasse sonner perpétuellement à ses oreilles les 7 500 000 grelots de son plébiscite. L'homme du coup d'État songe par instant. Il entrevoit vaguement un lendemain et se débat contre l'avenir inévitable. Il lui faut purge légale, décharge, main levée, quittance. Il la demande aux vaincus et au besoin il les met à la torture pour l'obtenir. Au fond de la conscience de chaque prisonnier, de chaque déporté, de chaque proscrit, Louis Bonaparte sent qu'il y a un tribunal et que ce tribunal instruit son procès. Il tremble, le bourreau a une secrète peur de la victime. Et sous figure d'une grâce accordée par lui à cette victime, il fait signer par ce juge son acquittement. Il espère ainsi donner le change à la France, qui, elle aussi, est une conscience vivante et un tribunal attentif, et que, le jour de la sentence venue, le voyant absous par ses victimes, elle lui fera grâce. Il se trompe, qu'il perce le mur d'un autre côté. Ce n'est pas par là qu'il échappera. Chapitre 5. Le 5 avril 1852. Le 5 avril 1852, voici ce qu'on a vu aux Tuileries. Vers 8 heures du soir, l'antichambre s'est remplie d'hommes en robe rouge, graves, majestueux, parlant bas, tenant à la main des toques de velours noir à galons d'or, la plupart en cheveux blancs. C'étaient les présidents et conseillers de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux. Toute la haute magistrature de France. Ces hommes restèrent dans cette antichambre. Un aide-de-camp les introduisit et les laissa là. Un quart d'heure passa. puis une demi-heure, puis une heure. Ils allaient et venaient de long en large, causant entre eux, tirant leur montre, attendant un coup de sonnette. Au bout d'une heure, ils s'aperçurent qu'ils n'avaient pas même de fauteuil pour s'asseoir. L'un d'eux, M. Trollon, alla dans une autre antichambre où étaient les valets et se plaignit. On lui apporta une chaise. Enfin, une porte à deux battants s'ouvrit. Ils entrèrent pêle-mêle dans un salon. Là, un homme en frac noir se tenait debout, adossé à une cheminée. Que venaient faire ces hommes en robe rouge chez cet homme en habit noir? Ils venaient lui prêter serment. C'était M. Bonaparte. Il leur fit un signe de tête, eux se courbèrent jusqu'à terre, comme il convient. En avant de M. Bonaparte, à quelques pas, se tenait son chancelier, M. Abatucci, ancien député libéral, ministre de la justice du coup d'État. On commença. M. Abatucci fit un discours, et M. Bonaparte un speech. Le prince prononça, en regardant le tapis, quelques mots traînants et dédaigneux. Il parla de sa légitimité. Après quoi, les magistrats jurèrent. Chacun leva la main à son tour. Pendant qu'il jurait, M. Bonaparte, le dos à demi tourné, causait avec des aides de camp groupés derrière lui. Quand ce fut fini, il tourna le dos tout à fait, et eux s'en allèrent, branlant la tête, honteux et humiliés, non d'avoir fait une bassesse, mais de n'avoir pas eu de chaise dans l'antichambre. Comme ils sortaient, ce dialogue fut entendu. « Voilà, disait l'un d'eux, un serment qu'il a fallu prêter. « Et qu'il faudra tenir, reprit un second. « Comme le maître de la maison, ajouta un troisième. « Tout ceci est de l'abjection. Passons. Parmi ces premiers présidents qui juraient fidélité à Louis Bonaparte, il y avait un certain nombre d'anciens pairs de France qui, comme pairs, avaient condamné Louis Bonaparte à la prison perpétuelle. Mais pourquoi regarder si loin en arrière? Passons encore, voici qui est mieux. Parmi ces magistrats, il y avait sept hommes ainsi nommés, Ardouin, Moreau, Pataille, Cauchy, de la Palme, Grandet, Quesnot. Ces sept hommes composaient, avant le 2 décembre, la haute cour de justice. Le premier, Ardouin, président, les deux derniers, suppléants, les quatre autres, juges. Ces hommes avaient reçu et accepté de la Constitution de 1848 un mandat conçu en ces termes. Article 68. Toute mesure par laquelle le président de la République dissout l'Assemblée nationale, la proroge ou met obstacle à l'exercice de son mandat est un crime de haute trahison. Les juges de la haute cour se réunissent immédiatement à peine de forfaiture. Ils convoquent les jurés dans le lieu qu'ils désignent pour procéder au jugement du président et de ses complices. Ils nomment eux-mêmes les magistrats chargés de remplir les fonctions de ministère public. Le 2 décembre, en présence de l'attentat flagrant, ils avaient commencé le procès et nommé un procureur général, M. Renoir, qui avait accepté, pour suivre contre Louis Bonaparte sur le fait du crime de haute trahison. Joignons ce nom, Renoir ou cet autre. Le 5 avril, ils étaient tous les huit dans l'antichambre de Louis Bonaparte. Ce qu'ils y firent, on vient de le voir. Ici, il est impossible de ne pas s'arrêter. Il y a des idées tristes sur lesquelles il faut avoir la force d'insister. Il y a des cloaques d'ignominie qu'il faut avoir le courage de sonder. Voyez cet homme. Il est né par hasard, par malheur, dans un taudis, dans un bouge, dans un antre, on ne sait où, on ne sait de qui. Il est sorti de la poussière pour tomber dans la boue. Il n'a eu de père et de mère que juste ce qu'il en faut pour naître. Après quoi, tout s'est retiré de lui. Il a rampé comme il a pu. Il a grandi pieds nus, tête nue, en haillons, sans savoir pourquoi faire il vivait. Il ne sait pas lire. Il ne sait pas qu'il y a des lois au-dessus de sa tête. À peine sait-il qu'il y a un ciel. Il n'a pas de foyer, pas de toit, pas de famille, pas de croyance, pas de livre. C'est une âme aveugle. son intelligence ne s'est jamais ouverte. Car l'intelligence ne s'ouvre qu'à la lumière, comme les fleurs ne s'ouvrent qu'au jour, et il est dans la nuit. Cependant, il faut qu'il mange. La société en a fait une bête brute. La faim en a fait une bête fauve. Il attend les passants au coin d'un bois et leur arrache leur bourse. On le prend et on l'envoie au bagne. C'est bien. Maintenant, voyez cet autre homme. Ce n'est plus la casaque rouge, c'est la robe rouge. Celui-ci croit en Dieu, lit Nicole, est janséniste et dévot, va à confesse, rend le pain béni. Il est bien né, comme on dit. Rien ne lui manque, rien ne lui a jamais manqué. Sa famille a tout prodigué à son enfance, les soins, les leçons, les conseils, les lettres grecques et latines, les maîtres. C'est un personnage grave et scrupuleux. Aussi en a-t-on fait un magistrat. Voyant cet homme passer ses jours dans la méditation de tous les grands textes, sacrés et profanes, dans l'étude du droit, dans la pratique de la religion, dans la contemplation du juste et de l'injuste, la société a remis à sa garde ce qu'elle a de plus auguste et de plus vénérable, le livre de la loi. Elle l'a fait juge et punisseur de la trahison. Elle lui a dit « Un jour peut venir, une heure peut sonner, où le chef de la force matérielle foulera aux pieds la loi et le droit. Alors toi, homme de la justice, tu te lèveras et tu frapperas de ta verge l'homme du pouvoir. » Pour cela, et dans l'attente de ce jour périlleux et suprême, elle le comble de biens et l'habille de pourpre et d'hermine. Ce jour vient en effet, cette heure unique, sévère, solennelle, cette grande heure du devoir. L'homme à la robe rouge commence à bégayer les paroles de la loi. Tout à coup, il s'aperçoit que ce n'est pas la justice qui prévaut, que c'est la trahison qui l'emporte. Et alors, lui, cet homme qui a passé sa vie à se pénétrer de la pure et sainte lumière du droit. Cet homme qui n'est rien s'il n'est pas le contempteur du succès injuste. Cet homme lettré, cet homme scrupuleux, cet homme religieux, ce juge auquel on a confié la garde de la loi et en quelque sorte de la conscience universelle. Il se tourne vers le parjure triomphant et de la même bouche, de la même voix dont, si le traître eût été vaincu, il eût dit « Criminel, je vous condamne aux galères !» Il dit « Monseigneur, je vous jure fidélité !» Prenez une balance, mettez dans un plateau ce juge et dans l'autre ce forçat, et dites-moi de quel côté cela penche.